Un panneau rose à suivre pour prendre le train afin d'avoir les doigts en éventail, voici un programme estival. Et là, c'est le drame. La suite au prochain épisode. Remarquez, ça tombe bien, c'est maintenant. Voici CMA. Bienvenue et bonsoir, vous êtes dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Ce soir, on a du jingle, du procès, des taxes, des sens uniques et du vent. Allez, voici le sommaire. Mais quel va être son sujet? Suspense, on ne tient plus, ça va être le moment de la pub, non? Allez, Olivier, tu nous parles de quoi ce soir?
Je vais vous parler de Cliffhanger.
Ah, de Cliffhanger.
Qu'est-ce qu'un cliffhanger?
D'accord, ben on saura tout ce soir. Il faut le suivre, mais ne pas tomber dedans. Bonsoir Florian, quel est ton sujet?
Bonsoir, eh ben, je vous parle des panneaux de signalisation.
Ah,
voilà, un petit historique des panneaux.
Bon, ben, écoute, tant mieux. Après avoir testé 4 variants de Covid, elle nous revient. On ne va pas la texer le mauvais goût ce soir, à moins qu'elle l'ait perdu. Bonsoir Caro, on parle de quoi ce soir?
Bonsoir, eh bien je ne suis pas en grande forme, donc on va parler d'un truc complètement pas intéressant.
Super. Bon.
Nous allons voir ensemble un nouveau phénomène marketing qui s'appelle la taxe rose.
Ah, ok.
Voilà.
Bon, on verra ça tout à l'heure, ok. Soso est là aussi, elle nous chantera The Voice. Ce sauf.
Mais bien sûr, comme toujours, ma petite voix The Voice, eh bien oui, voilà, ce soir, vous allez découvrir nos chansons françaises réutilisées dans les The Voice internationaux.
Ah, ok. Ah. En deuxième partie, on parlera aussi de procès et de jingle avec Mathias.
Oui, alors je vais vous parler d'un procès qui a pour origine l'enregistrement sauvage d'un jingle dans une gare française.
Ok, bon, ok, on verra bien. Et on parlera d'éventail aussi avec Sandra. On va même retrouver nos Graals, la minute qui répond à vos questions. Mais voici donc la première partie de CMA. C'est au pied du mur, suspendu dans le vide, qu'on le retrouve généralement la veille de l'émission quand il faut préparer son sujet. Allez, je ne spoil pas, voici la chronique d'Olivier. Reconnais-tu?
Non.
Cliffhanger.
Ah bah Cliffhanger, oui, c'est ça. C'est avec Stallone, non?
Oui, tout à fait.
Alors non, je ne vous parlerai pas de Cliffhanger, ce film de Stallone. 1993 avec Sylvester Stallone.
Oui.
Mais je vous parlerai des Cliffhanger. Alors, un cliffhanger, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, littéralement, ça veut dire personne suspendue au rebord de la falaise.
Ok.
Donc, dans les œuvres de fiction, c'est une fin ouverte qui laisse un suspense. Donc le public, il a envie de connaître la suite du récit pour savoir, par exemple, comment le personnage va s'extirper de la situation difficile où il se trouve.
Mm-hmm.
Alors, il y a un homme qui est accroché à une montagne, mais comment il va s'en sortir? Alors, cette technique, il faut savoir qu'elle remonte à l'écrivain Thomas Hardy au 19e siècle. Donc, dans son roman A Pair of Blue Eyes, une paire de d'yeux bleus.
Merci. Oh là là. Oh. Hey, on apprend des choses ce soir.
Non,
on apprend des choses. C'est
en
bien.
Fait, il avait publié un feuilleton de 1872 à 1873. Et au cours de son feuilleton, ben, il laissait son personnage, Henry Knight, accroché au bord d'une falaise. Et c'est là donc
et
vient l'expression cliffhanger.
Okay.
Alors, on va examiner les différents genres de fiction. Alors, en littérature, c'est une technique qui est beaucoup utilisée dans les romans policiers ou thrillers, et ça dès le 19e siècle, 20e siècle. Cette technique, elle a fait aussi le succès, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Dan Brown, le Da Vinci Code, où chaque chapitre s'achevait par un cliffhanger pour tenir le lecteur en haleine.
Okay.
Hein, c'était une technique, ça explique aussi beaucoup le succès du livre. Et d'ailleurs, tous les romans de Dan Brown, c'est un peu ça, quoi. Au niveau des BD, ça existe aussi. Alors aux BD, il faut savoir que les BD dans le temps, elles étaient publiées dans la presse illustrée hebdomadaire. Et on parlait alors de suspense de bas de page. En fait, la dernière case, elle jouait le rôle de cliffhanger, qui était renforcé par la mention à suivre. En fait, il y avait toujours un cliffhanger à la fin de chaque BD. Et il fallait
Donc vous voulez racheter la suivante.
Et après, on achetait le journal pour savoir.
Malin le lynx.
Pour la suite.
Ok.
Alors au niveau de la télévision, en France, la technique, elle a été utilisée par l'ORTF pour des séries comme Rouletabille. Et aux États-Unis, eh ben, le cliffhanger, c'est une caractéristique des soap-opéras. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, on a un cliffhanger toutes les 12 minutes. C'est... Alors pourquoi toutes les 12 minutes ? Parce que c'est la fréquence des interruptions publicitaires.
C'est infernal.
Voilà. Alors quand vous avez une série, un épisode qui dure 52 minutes.
Tu veux dire qu'ils ont de la pub toutes les 12 minutes aux États-Unis ?
Oh my God. Donc si vous regardez une série américaine, à peu près d'une heure, au bout d'un quart d'heure, vous verrez qu'il y a forcément un cliffhanger qui arrive, suivi d'une coupure publicitaire.
12 minutes, bien sûr.
Donc là aussi, il faut donner envie aux téléspectateurs de regarder la suite. Ouais. Alors d'ailleurs, les saisons de série, elles s'achèvent aussi par des cliffhangers. Alors la série qui a fait le plus de buzz, c'était la troisième saison de Dallas. Alors bon, les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais dans la troisième saison de Dallas, à la fin, JR, on tirait sur JR.
Enfin, sur une personne
quelqu'un
qu'on croyait
JR. Sur JR. Et donc ça, c'était peut-être au mois de mai-juin. Et tout l'été, ça a duré. Ils ont vendu des mugs. Qui a tué JR ? Est-ce que JR est mort ? Tout ça. Et en 1980, donc en septembre, est sorti donc le premier épisode de la quatrième saison. Il y a eu 80 millions de spectateurs dans le monde pour savoir si JR était mort et surtout qui avait tiré sur JR.
Alors, en fait, il n'est pas mort, c'est ça hein
bah non, il n'est pas mort.
Non, il n'est pas mort.
Bah non.
C'était tous les gens sont fait
avoir. Christine qui avait tiré dessus, je pense.
Ah ouais ? Et c'était Bobby qui était sur le siège de JR, c'est pas ça ?
Ouais.
C'est terrible.
Et alors même dans la deuxième
saison... On vous a spoilé, Dallas.
Deuxième saison de X-Files, je crois qu'il y a l'explosion d'un wagon où se trouve Mulder.
Ah oui.
Voilà. Et là aussi, on se demande est-ce qu'il est mort. Alors, il y a des séries comme Alias, Prison Break qui ont fait beaucoup de bruit. J'ai pensé à toi aussi, Mathias. Des fois, on a des triple cliffhangers.
Oh là 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 là.
Alors, ça, c'est notamment dans la saison 1, la nouvelle saison de Doctor Who, la saison 1 de la nouvelle série Doctor Who.
Ouais.
Où, entre deux épisodes, entre l'humanité en péril et la Troisième Guerre mondiale, apparemment, il y avait trois héros qui étaient répartis entre trois lieux différents et chacun se retrouvait face à une menace mortelle. Donc, ça, c'est un des épisodes de 2005.
Oh, oui, c'est ça, 2005. Donc, ça date vraiment, on s'en rappelle pas. Il
parle vaguement, mais alors.
Gros cliffhanger, effectivement.
Alors, le problème des cliffhangers, en fin de saison notamment, donc c'est une façon pour les scénaristes de convaincre les producteurs de renouveler la série. Mmh. Et malheureusement, en cas de refus des producteurs, c'est extrêmement frustrant parce qu'il y a des séries qui s'achèvent sur un cliffhanger et puis on ne verra jamais la suite. Alors j'ai noté notamment alors la saison 3 d'Hannibal, Hannibal Lecter, où en fait, à la fin, on voit, je spoil, hein, mais on voit les deux héros qui tombent d'une falaise et on ne saura jamais s'ils sont vivants. À l'origine, il devait en faire 7 saisons, le scénariste, et là, normalement, on aurait dû voir après Clarice Sterling, Le Silence des Agneaux, tout ça, on aurait dû voir la suite. Voilà, on se doute qu'ils ne vont pas mourir, mais bon.
C'est le film ou c'est la série ?
C'est la série,
c'est
une série spécifique.
Il ne meurt pas du coup ?
En théorie, il ne meurt pas.
Il ne meurt pas s'il y a le film après.
Dans les bouquins, normalement, il ne meurt pas.
Parce qu'il y a le film après. C'était avant le film.
Bah oui, mais vu que c'est une série.
Hannibal Lecter, après, il devient Hannibal le Cannibale, avec Clarice, Le Silence des Agneaux. Normalement, il ne meurt pas. Il y a aussi Twin Peaks qui se finissait par je ne sais pas si c'est une vieille série, mais
on comprenait rien.
Il y avait un fantôme Bob qui en fait, qui prenait possession du héros, du policier, ça finissait comme ça.
Voilà, mais bon.
Et puis dans Code Quantum, pareil, on laissait Scott Bakula perdu dans l'espace-temps.
Il y a quand même un épisode de fin, quand même.
Ah bon ?
Oui, un épisode de fin, et on se demande si c'est Dieu ou pas qui. Il se retrouve dans un bar avec toutes les personnes qu'il a croisées.
Ah oui.
Tout à fait, voilà. Et donc, il repart dans ses aventures. Il y a quand même une épisode de fin.
Et puis, au cinéma, c'est principalement utilisé dans les sagas cinématographiques, comme Retour vers le futur.
Le premier épisode se
termine vraiment en cliffhanger. En fait, ils entendaient les deux à la suite, le premier et le deux. Donc forcément, on attendait de voir la suite, le deux. Et même dans le 2, c'est pareil.
Pour le 2 et le 3, oui.
Voilà, donc ça continue. Et puis dans Matrix aussi, le deuxième se terminait également.
Bah là, c'est comme une série, effectivement, ça suit.
C'est des séries, et souvent c'est utilisé un peu aussi comme Avenger, l'avant-dernier, où il y avait un énorme cliffhanger à la fin, et on était obligé d'attendre plusieurs mois.
Est-ce que tout le monde avait vraiment disparu ?
C'est une technique courante dans le cinéma, dans les séries actuelles, mais qui date du 19e siècle.
Ah oui, c'est pas tout jeune. Très bien, merci Olivier. Dans un instant, on s'arrêtera au stop avec Florian et on paiera une taxe avec Caro. Mais pour la minute qui suit, c'est Titouan qui nous fait un Graal. Il répond à la question de Roselyne, d'où vient l'expression « être dans de beaux draps ».
Question de Roselyne, d'où vient l'expression « être dans de beaux draps » ?
Même pas peur, je vous couche tout de suite la réponse. Cela semble contradictoire. Pourquoi être dans de beaux draps serait négatif? Eh bien, en fait, les beaux draps, au 18e, sont le nom de vêtements blancs qu'on portait à la messe lorsqu'on avait péché, pour faire ressortir son côté sombre. Donc ils sont absolument à éviter, même si plus tard dans l'histoire, le blanc finira par devenir le symbole de la pureté. Être dans de beaux draps est donc être dans l'embarras. Notre explication parlerait de linceul. Et là, en effet, si on est dedans, ben, on est dans de beaux draps. Et pour longtemps.
C'était le Graal, à retrouver dans les podcasts plus de Radio G sur radio-g.fr. Le bébé du Pan s'appelle le panneau. C'est dingue. Et ça n'a absolument rien à voir avec la chronique de Florian.
Les panneaux de signalisation et ceux qui donnent des éducations. Pour moi, c'est une vraie passion. Ça me
cherche pas, c'est François Pérus, c'est québécois. Les panneaux de... voilà.
Okay.
Donc, alors, Florian,
alors,
les panneaux.
Les panneaux de signalisation. Eh oui. Alors, à votre avis, à quoi ça sert?
Bon, rien.
Personne ne les voit, de toute façon.
Ouais. Personne ne les voit jamais.
Est-ce que Mathias les pique pour faire des cochers, lui? Je sais pas.
C'est effectivement recycler les panneaux de signalisation, ça peut servir à la déco chez soi. Non, mais en fait, c'est pour rendre plus sûre la circulation en informant des dangers, pour faciliter la circulation et pour informer sur l'usage de la route, en fait, voilà. Et donc, il y en a absolument partout maintenant. L'assignation est aussi vieille, alors pas que les robes, mais que les routes.
Oui.
Puisque déjà, dans l'Empire romain, il y avait des informations sur des bornes en pierre. Il y en a d'ailleurs encore le long des routes. Parfois. Et donc, ils indiquaient les distances jusqu'à Rome.
Oui, c'était les distances, d'accord. Mais est-ce qu'il y avait des panneaux comme chez nous en disant c'est interdit ou c'est...
Non, non, pas encore. C'était vraiment que des trucs avec du texte dessus.
D'accord.
Et puis les distances par rapport à d'autres villes.
Donc, pas de stop, pas de priorité à droite.
Pas tout ça encore, non. Chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait sur la route. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport,
oui,
à part les
chevaux. Ils n'allaient pas très vite.
À l'époque, ils n'allaient pas très vite. Ensuite, au Moyen-Âge, on voit des panneaux directionnels qui indiquent les villes, justement, et donc dans les carrefours.
Rome.
C'est ça, pour indiquer où étaient les villes et dans quelle direction fallait aller. Donc on place d'abord les indications sur des bornes ou sur des colonnes en pierre, forcément. Et puis à partir du 18e siècle, 19e siècle, on met ces indications sur des plaques en fonte à partir de 1835.
Ça va être sympa à transporter.
Oui, c'est en métal.
J'aimerais pas travailler à la voirie à cette époque-là.
Donc là, on commence à arriver sur ce qu'on connaît en fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est toujours des panneaux en métal, à deux couleurs. Et puis avec un traitement dessus pour que ça réfléchisse dans le noir, pour qu'on les voit avec les phares.
Alors ça, c'est pour les panneaux qui donnent les villes. Mais les panneaux interdiction, tout ça, c'est mat.
Non, ça, oui, ça c'est mat, mais on les voit quand même quand t'as les
phares dessus. Oui, on les voit quand même. Oui.
Et donc la signalisation augmente, donc tous les panneaux augmentent avec l'arrivée, bien sûr, de l'automobile. Puisque forcément, qui dit automobile dit beaucoup plus de risques. Et beaucoup plus d'accidents, et donc des moyens de se repérer et de faire un peu la police de la route avec les panneaux. Donc on a les principes de base de la signalisation qui sont définis en 1908 au Congrès international de la route à Paris. C'est fou, c'est très intéressant.
Ouais, on t'écoute là. Il y a un panneau mute qui est juste à côté de nous, mais fais attention quand même. Hein.
Et il y a deux autres conférences. International ensuite en 1949 à Genève et en 68 à Vienne qui définissent aussi toutes les règles en fait de circulation qui essayent d'harmoniser les règles qui concernent les panneaux de signalisation.
Ah oui, c'est les mêmes panneaux partout dans le monde.
Eh ben non.
Enfin, on n'a pas réussi quand même. Enfin, ça se ressemble quand même un petit peu.
Ils essayent, oui, ça se ressemble un petit peu, mais c'est pas les mêmes.
Traverser de chameau, il y en a pas beaucoup, par exemple ici.
Non.
Par exemple.
Kangourou non plus.
Non plus.
Non, mais tout ça existe effectivement. Donc, alors. Ah, avant, on n'avait que du texte sur les panneaux. Et ensuite, on a des pictogrammes, des images, comme aujourd'hui en fait, et de la couleur, surtout de la couleur, et on se repère aussi aux couleurs. Et donc je reviens à la France. En 1909, on comptait 4 panneaux. 4 panneaux types, en fait. En France.
Oui, pas 4 panneaux en France, 4 panneaux types.
Alors en 1909, bah si,
oui.
Si, avec.
Non, mais pas 4 panneaux en France, il y en a un là.
Non, oui, non, mais 4 types de panneaux. Oui. Il y en avait beaucoup plus, donc à apprendre, c'était hyper facile.
C'est vrai.
Le stop.
Ah, il y avait quoi alors? Oui.
Non, il n'y avait pas le stop. Il y avait pas le...
C'était le passage.
Non, c'était des indications de virage.
Ah, les... d'accord.
Donc c'était surtout des dangers. Des dangers en virage.
On fait ce qu'on veut, mais par contre, c'était pour la protection.
Des panneaux de direction, voilà. Et en 2007, on compte 384 panneaux.
Ah la vache!
Type de panneaux. Donc là, à apprendre, c'est beaucoup plus compliqué.
Alors, Florian, Mathias fait des gros yeux, il n'a pas passé son permis encore. Il se dit combien faut que j'en mémorise
Je vais attendre encore un peu.
Je crois.
Alors, après, dans les 384, il y a une dizaine de types vraiment ou de catégories de panneaux. Et après, à l'intérieur de ça, c'est des variantes en fait avec des formes différentes, avec des indications de vitesse, c'est 30, 60.
D'accord.
C'est toujours le même panneau. Donc forcément, ça démultiplie le panneau. Et donc d'ailleurs, il n'y a pas d'uniformité internationale. Et en Europe, il n'y a aussi pas d'uniformité en termes de panneaux. Et notamment sur les panneaux qui indiquent les routes et les directions. Puisque en France, la couleur blanche est réservée pour les panneaux qui indiquent
une direction.
Les départementales, par exemple.
Ouais.
Quand tu roules sur une départementale ou une direction, c'est blanc. Sur les nationales,
C'est blanc aussi.
C'est vert.
Le petit carré. Alors, c'est marqué en blanc, mais c'est un petit carré. Tu vois sur le petit carré au-dessus, d'accord, national. Ouais, okay.
Et les autoroutes, c'est bleu.
C'est bleu, oui.
Donc, ça, c'est
par contre, c'est fond bleu, ouais.
Par contre, en Allemagne, donc les routes secondaires et les routes principales, donc départementales et nationales, pour faire vite, c'est jaune.
C'est jaune, ouais. On a l'impression qu'ils sont en travaux partout, en fait.
C'est ça. Et l'autoroute, c'est bleu. En Belgique, c'est bleu pour les routes secondaires et principales, et c'est vert pour l'autoroute. Ah. En Espagne, c'est un peu comme nous, c'est blanc, vert et bleu. Et en Slovénie, alors si un jour vous allez en Slovénie...
C'est rose.
Pour vous repérer. Non, c'est blanc. C'est bleu ou blanc pour les routes départementales. Et c'est jaune pour les routes principales et c'est vert pour les autoroutes.
Au Liechtenstein, c'est comment?
Au Liechtenstein, c'est un peu comme en Allemagne ou en Belgique. Donc voilà, donc chacun, en fait, chaque pays européen encore fait des couleurs différentes.
Ok.
De ces panneaux. Venir sur juste le panneau stop, puisque tu l'as cité tout à l'heure, Bruno.
C'est parce que je voulais que tu arrêtes, en fait. Ah. Non, vas-y.
L'histoire du panneau stop. Alors aujourd'hui, le panneau stop, il est octogonal. Il est rouge avec marqué stop, en gros, dedans.
Hexagonal ? Non, octogonal.
Octogonal.
Il y en a 8 ?
Il y en a 8.
Ah oui, il y en a 8.
Ah oui, il y en a 8.
J'en ai dit 6, moi.
Ah, j'en ai dit 6, moi. Ouais, non, 8.
Ah non, oui, 8, t'as raison, 8.
Ici.
Et alors, à votre avis, depuis quand il est octogonal? Parce que avant d'être octogonal, il n'était pas octogonal. Il était rond.
Ouais. Mais on le confondait, c'est ça?
Il était rond avec un panneau cédé le passage à l'intérieur et un gros stop dedans.
Ah oui. On mélangeait les deux, oui.
Donc à partir de 1949, il est rond avec le stop dedans. Et c'est qu'à partir de 1971 qu'il est octogonal. Donc c'est un format qui arrive d'Amérique du Nord. Et c'est le seul panneau. D'ailleurs, c'est le seul panneau octogonal dans la signalisation en France.
C'est vrai.
C'est le seul panneau qu'on peut reconnaître facilement, même quand il neige, et quand il est recouvert de neige, en fait.
Ah oui, voilà. C'est pas con.
Parce
c'est
que bah, les ronds, il y en a plein, des ronds, donc forcément, s'il est couvert de neige, on voit pas.
Et le stop, c'est important.
Alors que là, tu sais que c'est stop. Voilà. Et à votre avis, est-ce que vous savez combien il y a de panneaux stop à Paris?
Ah, je sais.
À 50... à 50 près.
Il y en a zéro.
À 50 près, pour ceux qui savent.
Ou il y en a un.
Ouais, zéro ou un.
Années à cause d'une rue en travaux, je crois.
Alors... Il y en avait un jusqu'en 2013, effectivement, dans une rue qui était souvent en travaux.
C'est des feux, sinon.
Il a été volé en 2013.
Le panneau.
Donc, ils ne l'ont pas remis. Donc, effectivement, il y en a zéro. Il n'y a pas de panneau stop. C'est que des priorités à droite ou des feux tricolores. Par contre, le Conseil de Paris, en 2021, a voté une délibération qui retirerait certains feux tricolores à des carrefours et qui les remplacerait par des stops. Alors, je ne sais pas si ça s'est fait ou pas aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé l'info. Mais en tout cas, il y a très peu aucun panneau stop à Paris.
C'est pour dissiper le doute, je tiens à préciser que le panneau qui a disparu n'est pas dans mon appartement.
C'est moi qui l'ai piqué.
Ça, ouais, c'est pareil.
Où est-ce qu'il est?
Où est-ce qu'il est?
Merci, Florian. Les hommes et les femmes sont égaux ou égales, mais certains sont plus égaux que d'autres. Avant qu'on me taxe de misogynie, je préfère laisser la parole à la plus égale d'entre nous. Voici la chronique de Caroline.
C'est la valse des étiquettes. Faut que personne ne nous achète. Chers amis, soyons trop chers pour rester sur nos étagères.
C'est le Soldat Rose.
Ah oui, c'est
la comédie musicale.
Bien trouvé. Alors oui, ce soir, je vais vous parler de la taxe rose. C'est un nom plutôt mignon comme ça, mais en fait, ça désigne quelque chose de pas mignon du tout. Alors Caroline, pas contente. Caroline Grognon.
C'est la taxe contre les mauvais goûts, c'est ça?
Non.
Ceux qui s'habillent en rose.
C'est un peu plus subtil que ça, mais d'accord. C'est tout aussi désagréable. Alors, la taxe rose, ou appelée Woman Tax, donc déjà, ça donne un petit peu la couleur.
Rose.
en anglais. Donc ça désigne le surcoût concernant certains produits et des services maintenant destinés aux femmes exclusivement.
Bah, c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau, exactement. Ça a été créé dans les années 90 en Californie et ça a explosé en France en 2014 seulement. Ça a été un petit peu dénoncé sous le coup des féministes. Donc en fait, il s'agit à la base d'une simple stratégie marketing commune en France et dans le reste du monde qui pousse les femmes au final à la surconsommation, mais qui creuse aussi surtout les inégalités socio-économiques. Puisqu'en fait, c'est une taxe qui est 6% supérieure aux produits masculins.
Voilà. Alors que c'est le même produit en fait.
Pour exactement le même produit. Sachant qu'une femme en plus gagne 16% de moins sur un salaire, petite précision au passage. Alors, les spécialistes donnent l'argument suivant. Ils veulent que les femmes aient l'impression d'être des clientes à part.
C'est voilà. Du luxe.
En payant plus cher, c'est sûr que c'est...
Ouais, sont à part. Et ça rend les femmes ravies. Alors, c'est pas joli joli tout ça.
Oh là, oui, tu as raison.
Pas contente.
Surtout qu'elles commencent à croître. Au début, elles ne touchaient que quelques produits. Donc, l'exemple type, c'est les rasoirs.
Oui.
Si vous prenez la marque Gillette, la même...
En Vénus, elle est trois fois plus chère.
Exactement. Et il y a un euro d'écart.
Ouais, faut dire, vos poils, ils sont quand même super gros quand même.
Pour exactement le même rasoir. Bon, ça, c'est gentil. On va dire 10 centimes, un euro d'écart. Allez, on vous les donne. Mais après, ça s'est un petit peu étendu. Au service, par exemple, chez un coiffeur, une coupe courte. Oui. Homme, une coupe courte avec juste lavage et coiffage. Sur même type de cheveux, chez une femme et chez un homme, on peut avoir des différences de 20 euros.
Ouais, mais vous ça dure plus longtemps parce qu'on cause. C'est...
Moi, j'avais vu un reportage sur un coiffeur, je crois qu'ils sont en Bretagne, ils facturent suivant la longueur des cheveux, qu'on soit homme ou qu'on soit femme.
Ah bah oui,
ce serait ça le principe le plus logique, mais malheureusement ça marche pas comme ça.
C'est vrai qu'il y a une grosse différence avec les femmes.
Et le problème aussi, c'est que ça commence dès l'enfance. On s'est aperçu que certains jouets, par exemple VTech, Toutou parle trop. Eh bien, Toutou parle trop pour les petits garçons. Il a 3 euros de différence avec Toutou parle trop version rose pour les petites filles.
Alors ça, c'est très étonnant, effectivement.
Voilà. Ouais. Et donc, on le voit surtout à Noël, en fait. Les écarts sont hyper flagrants.
Ah ouais.
Parce que le pigment rose est plus cher, c'est ça.
Voilà. Donc là, c'est une aberration. Et y compris, une petite fille coûte plus cher au niveau des vêtements. Même si on prend une simple paire de chaussettes blanches ou des choses comme ça, il peut y avoir des écarts vraiment de 1, 3, 4 euros.
Et puis ce qui est pratique avec les magasins, c'est qu'ils séparent bien les garçons des filles, donc on n'a pas le même produit l'un à côté de l'autre.
Exactement.
Donc on ne peut pas faire la différence.
On ne s'amuse pas vraiment à faire la différence, on prend et on ne cherche pas. Voilà. Alors le gros problème, c'est qu'évidemment, ça a touché la mode à tous les étages. Asos a été épinglée parce qu'elle vendait une paire de baskets Reebok. Alors pour les femmes, même pointure que pour hommes, hein, 39-40 à peu près, elle était à 45 euros pour les hommes et le modèle était à 109 euros pour les femmes.
Ah oui, quand même.
Donc là, on commence à pousser un peu l'écart. Voilà, ça ne se joue plus à du 10 centimes, 3 euros. Là, on commence à un petit peu pousser
l'écart. Mais pourquoi elles acceptent alors de faire ça pourquoi les femmes acceptent? Parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix.
En fait, on ne s'en rend pas compte vraiment. Parce qu'on a l'impression, ils jouent sur le fait qu'il y ait possiblement une différence sur la chaussure. C'est-à-dire, pour un homme, c'est plus large ou ça va tailler différemment, ça va moins prendre le pied, etc. Donc,
d'où la dénonce.
Voilà, quand vous allez sur le site Asos, vous allez sur votre catégorie femmes et hommes, personne ne cherche vraiment.
Donc c'est ça la fin. Une basket homme et une basket femme.
Le pied ne doit pas exactement.
Ça dépend
le même,
du modèle, mais ça dépend du modèle, mais en général, oui, sur une Reebok classique assez fine, non.
Ouais. D'accord.
Alors malheureusement, le luxe n'y échappe pas. Yves Saint Laurent en tête avec des différences de prix de 800 euros sur un pull rayé notamment. Alors sachant qu'en plus il y a plus de matière sur un pull homme, plus de fabrication, plus de matière, voilà. Suivi par Valentino, Gucci et Dolce & Gabbana. Donc par exemple, un simple t-shirt blanc, vous pouvez le voir sur leur site actuellement, hein, d'ailleurs, il peut avoir 100 dollars d'écart. Voilà. Évidemment, comme toute stratégie, certains ont un peu pris le contre-pied pour faire une contre-stratégie et un petit peu profiter de la bataille pour se donner les lauriers, quoi. Donc les imperméables Burberry, les pulls JW Anderson et les chaussures Rick Owens ont revendiqué haut et fort ne pas changer les prix, qu'elle soit pour une paire masculine ou une paire pour les filles. Voilà.
Bravo.
Donc eux, ils respectent les prix pour hommes comme pour femmes. Voilà. Donc ça fait partie aussi d'une stratégie parce qu'évidemment, on va aller plus vers ces marques, etc. pour défendre la cause. Bon, voilà. Au final, le vestiaire féminin, il faut savoir qu'il coûte 7 à 8% plus cher sur des produits similaires. Ce qui est quand même énorme.
Ouais, c'est énorme.
Donc, messieurs, dorénavant, je ne veux plus entendre que une femme a trop de vêtements, une femme dépense trop, une femme passe trop de temps dans les magasins.
Bah, je parle rapport.
Voilà.
Bah si.
Bah non.
Bah si elle dépense trop, c'est parce que c'est plus cher.
Oui.
Voilà.
Ah d'accord, ce serait pour ça.
Exactement.
Et c'est pour ça que vous restez trop dans le magasin, c'est parce que c'est
pour
plus
comparer.
Cher. Ah oui, pour comparer. D'accord. Je sais, la fin de la chronique n'était pas très, très, je sais pas.
Elle n'était pas prévue.
Oui, c'est ce que j'ai pensé, ouais, effectivement. Enfin, vivement bientôt les vêtements unisexes, les non-genrés, et du coup,
ça.
On n'aura plus le problème.
Oui, je pense qu'on va en voir de plus en plus et que ça va rétablir l'ordre d'un problème.
Très bien. Eh bien, écoute, merci, Caro. Allez, maintenant, on va parler musique dans CMA avec Soso, The Voice.
Eh bien oui, vous avez reconnu le Jingles, vous connaissez tous The Voice, et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, ce télécrochet quand même maintenant qui a 10 ans, 20 ans.
Oh là, oui, au moins.
Facile. Donc, un jury va écouter un candidat chanter, mais ne le voit pas, il est sur un siège retourné, et seulement si effectivement la performance lui convient, le jury va se retourner et valider du coup son admission dans l'équipe. Cette émission de télécrochet est diffusée dans de nombreux pays, pas qu'en France. Elle est en moult versions étrangères. Et bien sûr, dans cette émission The Voice, on va entendre généralement des reprises. Les candidats vont réinterpréter des chansons. Et,
France, c'est souvent français, en fait.
En France, c'est souvent français, mais pas que. Hein, parce qu'effectivement, ils vont choisir les chansons qui leur parlent. Et voilà. Donc, on a du français, mais on a aussi, bien sûr, des chansons internationales. Alors, moi, je me suis demandé comment ça se passait dans les autres pays. Est-ce qu'ils avaient ou pas des chansons francophones? Est-ce qu'ils reprenaient
ça,
des chansons?
Ça m'étonnerait. je les vois pas reprendre du Sardou. Du...
Bah, après, il y a des chansons qui passent les frontières. Alors, je vous propose ce soir ce petit jeu.
Ah, parce qu'il y en a.
Qui va être, effectivement, d'essayer de retrouver dans quel pays on a pu faire des reprises. Enfin, en tout cas, déjà, essayer de retrouver le titre de la chanson et l'artiste original. Et on va essayer de voir peut-être si on trouve l'accent derrière de l'artiste.
Alors, c'est parti.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus. Je suis sale sans toi.
Moi j'ai trouvé.
Je suis laide sans toi. Comme une orpheline.
On a du mal à définir si c'est un homme ou une femme.
Ouais. Alors c'est une femme apparemment. Ouais. Alors quand même. Moi j'ai trouvé.
Un pays du Sud.
Non, pas le pays, pas le pays. La chanson. La chanson déjà. Non, mais déjà la chanson avant. Voilà, Lara Fabian, je suis malade, c'est ça?
C'est pas Lara Fabian, c'est
Serge Lama. Serge Lama, oui.
Serge Lama, je suis malade, mais c'est joli aussi. Hein.
Ouais. Alors, quel
voilà,
pays?
Donc c'était en Norvège. Hein, les Norvégiens, ils reprennent du Serge Lama.
Mais je suis malade.
Allez, on essaye un deuxième extrait plus facile, peut-être.
Ah.
C'est en Angleterre, ça.
Bon, alors déjà, quel est le titre déjà? Le titre déjà.
Lolita Alizé.
Moi, Lolita avec Alizé, effectivement. Alors, je suis incapable de retranscrire le prénom.
Il est en cyrillique, oui.
Et donc, c'est en Ukraine, c'est The Voice Ukraine, en 2021. Allez, on essaye un autre extrait.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver.
Alors,
elle dit qu'il n'est jamais très loin.
Ce serait qui?
Stromae.
Papa Ote, mais on ne sent pas trop l'accent pour
non.
Le coup.
Ouais.
Allemagne.
Ah oui.
C'est pas mal, hein?
D'accord.
Allez, on essaye un autre extrait, essayez de trouver le pays et où la chanson.
Oh, ma.
C'est Sonia.
Ma, sweet darling, oh I love you. Je me suis craqué là.
Ça c'était pas sympa, Bruno. Ça nous arrive des fois Sonia. De nous faire des petits jokes et c'était pas prévu que ça sorte aujourd'hui. Caroline, je t'ai entendu dire oh putain. Donc
Sonia, ouais, c'était Ghost.
C'était The Voice et Ponce.
C'est beau ça.
Bon, pays suivant. On passe.
C'était quoi la chanson?
Ghost.
Je te bouscule. Je te réveille pas comme d'habitude.
Alors c'est la chanson.
C'est grec.
Alors déjà, Claude François comme d'habitude.
Oui, oui.
Alors, ce serait quel pays?
Encore du sud.
Olé.
Olé, espagnol.
Espagnol.
The Voice Espagne, ouais.
Ok, suivant.
Attention. Oh là là.
Ah oui.
Encore?
Encore Lara Fabian.
Ouais, Lara Fabian 2, le retour.
Slash.
Elle doit rien comprendre de ce qu'elle chante.
Quoi. Un truc, c'est Moyen-Orient ou
Azerbaïdjan.
La Grèce.
Grèce.
La
Grèce.
Oui, ah bon.
Oui,
c'est pas loin.
Allez, un petit d'air.
Encore un.
Oui,
encore un.
Elle a appris en phonétique.
Sympa celui-là.
Au-dessus de vieux volcan.
Oh, ce n'est pas trop.
Glisse du sel sous leur tapis du vent. Voyage, voyage. Éternellement.
Relâche au près de moi.
Ton nuage marécage. Ton vent d'esprit n'a plus d'équateur. Voyage, voyage. Vol dans les hauteurs. Au-dessus de glisse du sel sous leur tapis du vent. Voyage, voyage.
C'est voyage, voyage.
Oui, c'est ça.
Éternellement.
C'est pas mal, hein?
Oui. À la chambre de mon.
Ton nuage marécage.
J'aime bien, moi.
Ouais.
Ton vent d'esprit n'a plus d'équateur.
Alors, quelqu'un qui me chante pas à l'oreille, je sais pas, je pense que.
Alors, c'est quel pays?
Ça avait du gros succès en Espagne, je crois.
Ouais. C'est pour, mais c'est pas l'Espagne,
non,
là. Espagne.
Non. Eh bien, non, c'est The Voice Russie. En Russie.
Ah. Ah ouais, voyage, voyage.
C'est ça, ça a voyagé. Voilà un petit tour
encore
du monde.
Petit, bah, des, un petit peu encore.
Ah, bah si tu veux, ouais,
vas-y,
oui, t'en as encore un.
Le pire, c'est les voyages, cette aventure. Une chanson faire vivre un souvenir.
Alors ça, c'est Louane, c'est ça?
C'est Louane.
Quel pays?
Il y a des gens qui connaissent Louane à l'étranger.
Ouais, tu vois. Donc on y va.
C'était The Voice Allemagne à nouveau. C'était en 2020. C'est que ça avait été interprété.
Rapidement.
C'était un garçon.
Oh, il me prend dans ses bras.
Oh.
Il n'est pas. Ah.
Tout. La vie en rose. C'est qui?
C'est forcément européen?
C'est quoi tu dis?
C'est forcément européen?
Non.
Les États-Unis?
Non, il y a l'accent anglais effectivement, ouais. Mais Australie.
Australie?
Ouais.
Australia.
Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable.
Ouais.
Ah, ah, ça retourne. Allez, on se retourne. C'était les Pays-Bas.
Ah oui.
Oh, bon, pas d'accent.
Non, pas d'accent. Non, et le
non,
dernier.
Non, pas trop.
Port d'Amsterdam. Il y a des marins qui chantent.
Et là, c'est ça.
Ouais.
Et c'est chez eux. Très bien.
Et bien voilà pour le petit tour des reprises de nos chansons françaises.
Très bien, merci Soso.
Merci Bruno, vraiment.
Voilà, vous êtes toujours dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Voici le sommaire de la deuxième partie. Don't L'inspiration d'une chanson ne tient pas à grand-chose. L'origine de certaines est pour le moins originale. Donc Mathias, ce soir, tu vas nous parler d'un procès, c'est ça? Tu nous en as parlé un peu tout à l'heure. Donc c'est ça,
exact.
Un procès. Ok. Ce soir également, elle va nous mettre un vent. Enfin, en tout cas, c'est pour nous montrer l'éventail de ses talents. Bonsoir Sandra, quel est ton sujet?
Bonsoir, ce soir je vais vous parler d'objets désuets. Un peu passé de mode, l'éventail.
L'éventail. Oh, bah Olivier, il utilise toujours l'éventail, il aime bien. Oh, oui, si. Et si on ajoute un petit graal en plus, eh ben, on a la deuxième partie de CMA. Donc c'est parti. C'est une histoire rocambolesque qu'il va nous conter ce soir. Gare au procès, voici la chronique de Mathias. Alors, je ne vois pas du tout le rapport, mais je pense qu'on va comprendre.
Effectivement, ça va venir. Est-ce que vous connaissez David Gilmour?
Oui.
Bah, il est venu à la maison hier.
D'accord. Bah, voilà. Bon, bah, ça me fait plaisir. Bonne soirée. À bientôt.
Qui c'est?
Du coup, c'est un autocompositeur interprète anglais. Il est surtout connu pour être le guitariste et le chanteur du groupe Pink Floyd.
Ah bah là, oui, ah, là voilà. Déjà tout de suite, on connaît mieux, oui.
Voilà. Mais qu'est-ce que vient faire David Gilmour, du coup, dans CMA?
Oui.
Eh ben, c'est... En fait, il est à l'origine d'un procès pour l'utilisation de 4 notes de musique dans sa chanson Rattle That Lock.
Oula.
Oui. Alors, bon, je crois que je vous ai un peu perdu. Un son vaut mieux que toutes les explications. Écoutez.
Yeah.
Alors les quatre notes Do, Sol, La bémol et Mi bémol sont bien celles de la SNCF.
Ah oui.
Pour celles des annonces. Il est joué entre 100 et 150 000 fois par jour en France.
Ah oui,
ça fait quand même pas mal quoi. C'est en 2013 que David Gilmour en fait prend un train en France et qu'il entend ce jingle dans une gare. Il adore cet enchaînement et en bon professionnel, il demande les droits. Cette mélodie, c'est celle d'un Français spécialiste du jingle. Un deal est donc signé, le Français touchera entre 12 et 25% de droits sur les titres.
Ah quand même, juste pour les 4 notes.
Ouais.
Ah ouais, sympa, bon deal, bon deal. Bah ouais.
Il assure aussi ses arrières en demandant l'autorisation à la SNCF qui lui cède les droits gratuitement.
Nickel.
Bon, parfait.
Mais
Mais ce Français, c'est monsieur Michel Boumandil.
Ah bah oui.
On le connaît bien.
Oui.
Toujours des emmerdes avec lui.
Et il se la pète tellement qu'il fait rapidement écouter la chanson lors de ses interviews en faisant bien comprendre qu'il en est à l'origine.
Ouais, ça doit bien énerver.
Bah, les producteurs du chanteur font un peu la tronche,
ouais.
Car le titre n'étant pas encore sorti, et toute la promo et les exclus ont alors volé en éclats.
Ah oui.
Du coup, c'est pas encore...
Ouais, c'est dommage, ouais.
L'ambiance entre David Langlais et Michael Le Français va alors vite tourner à l'orage. Le Français traîne alors en justice notre chanteur anglais, pour comme direz-vous, puisque le deal avait été signé dans les formats et que tout le monde était OK.
Bah oui.
Alors attention, grosse cartouche de mauvaise foi bien badass, notre Français à l'origine du jingle de SNCF déclare que s'il a bien donné les droits pour l'utilisation de ses notes, il ne les a pas donnés pour l'utilisation de son enregistrement à lui.
Hein?
Alors, c'est un peu... En effet, notre chanteur anglais avait enregistré dans la gare en live le fameux jingle lors de son voyage.
Ah, il l'a pas refait, il a enregistré l'original. D'accord.
Voilà. Le Français, qui n'a donc peur de rien, réclame alors près de 500 000 euros de dommages pour contrefaçon. Alors d'après vous, qui a gagné le procès?
Oh, c'est gros quand même. C'est un peu gros là. Enfin bon, après, on sait pas, les avocats sont bons des fois, mais...
Le 31 mai 2019, le Français a perdu et il a dû payer les 40 000 euros de frais de justice.
Okay.
Donc, c'est vraiment perdu, perdu.
Ouais, perdu, perdu, ouais.
Mais attendez, c'est pas fini. Notre créateur de jingle a fait appel, le contrat a alors été décortiqué dans tous les sens, et alors qui cette fois a gagné?
C'est lui.
Ah, ça a changé? Il a gagné?
Ah, vous tenez plus, hein?
Non, bah non, vas-y!
Eh bah non, mais logiquement, la cour d'appel a débouté le Français, et qui versera encore 10 000 euros de frais de plus.
Bah oui. Eh bah il aurait mieux fait de rester chez lui, hein.
Pour acharnement.
Bref, malgré tout un titre original à écouter, bref, ça fait tout un titre original à écouter en prenant le train.
Bah oui, c'est vrai.
Pour en revenir à la SNCF, voici quelques anciennes annonces des chemins de fer français, à voir si c'était mieux avant. Du coup, on a celle de 1946.
Sur voie 1, en voiture, fermez les portes, s'il vous plaît.
C'est en Suède.
Attention, on départ.
Oh, attention, c'est pas commode, ouais.
Après, on a celle de 1967.
Ah, c'est comme une cour de récré.
On entend ça dans les films.
Ouais. Ah, toujours le même. Il y a un accent.
Ça, j'ai déjà entendu.
Ouais, mais dans les cours de récré, il y avait ça aussi. Hein. Ouais,
c'était pas encore Simone. Moi, j'ai connu que Simone.
En guerre, il me semble. Dans les anciennes guerres ou quoi.
Après, il y a celle de 1970.
Oh la vache!
Le Bavin Pic de Termonde, à destination de Paris-Gare de Lyon, va partir!
Bon, je me rappelle pas du tout celle-là non plus.
Et 84.
Ah ouais.
Je me rappelle.
Une femme.
C'était pas ça, Simone.
Non.
Et alors, enfin le jingle SNCF de 2005.
Ah, Simone.
Le TGV 7225 à destination de Lille-Flandre va partir.
Sandra, t'es en retard. Attention ton train.
Je rigole beaucoup avec Simone parce qu'en fait, son appel et toutes ses annonces, il y a eu plein de best-of qui traînaient sur Internet. Alors à l'époque, c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui, hein,
ouais.
Mais qu'on pouvait trouver si on connaissait bien les sites. Et je m'en servais comme sonnerie, téléphone.
Ah bah oui.
Et il y avait plein de sons détournés.
Angers, 2 minutes d'arrêt.
Et alors, le petit cadeau, c'est la version David Guetta du jingle de la SNCF.
Ah, Ce serait cool dans les gares, ça, non ?
Je sais pas. Grave. Ça mettrait quand même beaucoup plus d'ambiance, surtout quand les gens ils attendent leur train qu'à 2 heures de retard.
Ouais, c'est ça. Merci Mathias.
Avec plaisir.
Vous savez peut-être que laver ou essuyer un affront, eh bien, ça n'a pas la même signification. Eh bien, Valérie nous demande plus d'explications. Le Graal de Titouan nous répond.
Question de Valérie. Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront ?
T'es con avec tes questions. Tu te fous de moi ? Je reprends une citation d'Alphonse Allais, escroc. Cette phrase est en fait assez simple. On lave une injure car laver signifie se débarrasser de façon honorable en se vengeant de manière égale, en défiant la personne à un duel par exemple. Alors qu'on essuie un affront, c'est-à-dire que l'on est victime mais qu'on ne se venge pas. Si votre enfant renverse tout son lait sur la table après le goûter, c'est un affront et là, il faut l'essuyer, voire même lui laver le front. Mais c'est une autre histoire.
Merci Titouan, c'était le Graal à retrouver sur Spotify, Instagram et Radio G.
Je sais pas si Valérie a bien compris la réponse.
Ouais, c'est clair, j'ai pas tout suivi non plus. Allez, c'est les doigts de pied en éventail qu'elle a préparé son sujet. On est heureux de la revoir dans CMA. Voici la chronique de Sandra.
J'ai tout un éventail, de jolis éventails, d'un peu toutes les tailles.
C'est en Italie ça.
Je sais pas.
Alors, l'été arrive, la canicule aussi.
Oh super, et... merci.
Oh, ben sûrement, en tout cas.
ouais, on va tous mourir, ouais.
Vous avez préparé votre valise avec le thermos, le chapeau, les lunettes, mais avez-vous pensé à tout ? Je vais vous révéler l'objet oublié, mais indispensable de votre été. J'ai nommé l'éventail. Et oui, ce n'est pas tout de vouloir se reposer les doigts de pied en éventail si vous oubliez l'accessoire le plus désuet au monde. Mais avouez que déplier son éventail sur les chemins de randonnée ou dans les rues bétonnées
c'est
sous
classe.
Un soleil de plomb, ça permet de se démarquer.
Ouais.
L'éventail a été inventé par un japonais au 7e siècle, mais l'ancêtre de l'éventail, qui était plutôt une sorte de chasse-mouche en fait, pour se protéger des insectes, se retrouve en Égypte ancienne dans les tombes des pharaons. Il avait la symbolique de redonner le souffle aux défunts, et on appelait cela à l'époque des flabella.
D'accord.
Donc c'est l'ancêtre de l'éventail. Mmh. Il existe deux sortes d'éventails. Le premier, il est de forme ronde, appelé écran rigide. Un écran, vous voyez, forme ronde en forme de bambou en général.
D'accord.
Ou de rotin.
Ah, c'est celui qui avait aussi une grande perche où il y avait les esclaves qui les.
Ah, oui, ça ressemble à ça.
Ça ressemblait à ça. Voilà. D'accord.
Mais il y en a des plus petits aussi.
Oui, hein, point manuel, ouais, bien sûr. On n'a pas tous des esclaves, hein, ça.
Je rêvais d'avoir ça, moi, à la maison.
Un esclave ?
Oui.
D'accord, ou un éventail.
Ouais.
Donc, le premier, il était de forme ronde, donc il ne se pliait pas, quoi, il était rigide. Et le deuxième, qui a été inventé, c'est l'éventail pliable, en fait, qui, lui, il a fait son apparition plutôt vers le 14e siècle.
Mm-hmm.
Donc, l'éventail sert évidemment pour se rafraîchir, mais c'est aussi un objet traditionnel chinois et japonais, utilisé dans les danses traditionnelles, au théâtre ou dans certaines cérémonies. Il peut aussi servir à raviver les braises d'un feu de cheminée.
Ah oui, on met l'éventail dedans. Non. Il est en papier et pouf.
Non, évente.
Ah, on évente, pardon. Ok. Chacun sa méthode.
L'éventailliste est celui qui fabrique des éventails.
Ah. Ah
oui. On peut en retrouver en soie, en bois de santal. Et en bois de santal, c'était bien pour les armoires, parce que justement, ça permet...
Ça sentait en même temps, ça
voilà,
faisait
ça
un
peu... Voilà, ça évite les insectes aussi.
D'accord, ouais. Ok.
En verre peint, c'est-à-dire souvent, c'était...
En verre
bah, oui, en verre, parce qu'il y avait de la peinture, en fait, sur les éventails.
D'accord.
Donc, pour les peindre, en fait.
Oui, ah oui, le verre, la couleur verte.
Non, non.
Non, le verre.
Oui.
D'accord. Mais ça devait être fragile, on met ça...
Oui,
en...
voilà, c'était plus un objet
déco.
Artistique.
Ah bah
du
ouais,
coup,
j'imagine, voilà. C'est, ouais, c'est lourd. Et oui, en plus, le truc 30 kilos.
Ceux qui étaient pliables, ils étaient soit en soie ou en mousseline, quoi.
D'accord. Ah ouais, parce que pliable en verre, c'est...
Non, non, bah là, non. oui, l'éventail, du coup, fut un accessoire de mode aristocratique à partir du Moyen-Âge, et celui-ci prit des formes esthétiques, comme je disais, en plus d'être pratique. Il était souvent peint, représentant des tableaux connus ou des scènes mythologiques. La structure de l'éventail était en écailles de tortue, rehaussée d'or, de nacre ou d'ivoire. Mmh. Vous pouvez aller voir un site qui s'appelle Fan d'éventail.
Fan d'éventail,
tout attaché.
D'accord. Et il y en a qui sont fans de plein de choses. Hein,
non,
fan
non, mais
d'éventail.
En fait, il y a plein d'éventails très très bons. Voilà.
On ne dit pas les éventaux alors quand c'est au
Eh ben non, on ne dit pas les éventaux. C'est les éventails avec un S. Il y a même un langage de l'éventail qui était un formidable instrument de séduction. Mmh. Donc ainsi, donc j'ai mon petit éventail.
Ah, il en a mis en papier.
Si le tenir dans sa main droite, du coup, face au visage, ça voulait dire « suivez-moi ». Le tenir dans sa main gauche, ça voulait dire « j'aimerais faire votre connaissance ».
Oui.
Et le faire glisser devant les yeux, « je suis désolée ».
D'accord.
C'était un langage de geisha, non?
Non, même pas, c'était... Ça, alors, je ne sais plus par qui ça a été inventé, mais il y avait un manuel
de, femme, en général,
de langage lié aux éventails. Après, ça n'a pas été repris
mais c'est pratique.
Totalement. Quoi, ça...
C'est pratique alors, de pouvoir
dans les
dire.
Cours,
et
aussi.
Le laisser tomber, soyons amis. Soyons amis.
Oui. Ou alors faisons des fautes, faisons des fautes de français.
Chez les geishas, c'était tout le contraire. C'est... Laissez tomber.
Ça, je l'ai vu dans les liaisons dangereuses. Hein. Il l'avait fait tomber souvent, oui.
Un peu comme la savonnette.
Alors, on n'a pas le même genre d'amis, Florian.
Alors, il y en avait plein d'autres, mais je n'ai pas tout dit. Hein. Mais de la séduction à la guerre, il n'y a qu'un pas. Franchi au Moyen-Âge, entre le 15e siècle et le 16e siècle, le Japon invente l'éventail de guerre.
Ah bon?
Et oui, vous avez bien entendu, un éventail avec une structure métallique en acier qui s'appelle le gunsen. Le gunsen, ça ressemble à gun, le pistolet, ouais. C'était l'éventail.
Mais il faisait quoi? Je te fais du vent, je te fais
et
du vent.
En fait, cet éventail servait pour, on va dire, montrer la direction aux troupes, on va dire. Pour
ah d'accord.
Ou se protéger lors des combats de sabre.
Alors, oui, remarque,
je pense
oui.
que c'était aussi les...
Oui. Des... T'imagines, si c'est en métal, effectivement, oui, c'est ça. Ça, faisait
voilà.
Ça faisait des murs, quoi. Mm. On pouvait bâtir des murs rapidement.
Et il est utilisé comme une arme dans l'art martial. Alors, ça s'appelle Tajishan.
Ok, Tajishan. Bah, tu te prends un éventail dans la gueule,
vous
c'est
allez
sûr, ça
voir,
va faire bizarre.
Sur YouTube, vous pouvez aller voir et...
D'accord.
Il y a des démonstrations.
Ok.
Qui dit guerre dit soigner des blessures. Alors, on reprend la citation que je vous ai dit tout à l'heure, avoir les doigts de pied en éventail. Pour votre avis, ça veut dire, en général, on pense que c'est pour se reposer. Mais ouais. Pourquoi cette expression, à votre avis?
Moi, je sais pas, c'est une forme d'éventail, les pieds qui sont écartés, les je sais pas.
Alors, moi, je pensais ça aussi. Mais en fait, du coup, c'est pas très de l'amour, en fait. C'est, en fait, à l'époque, bah, on marchait souvent pieds nus. Donc, on attrapait des mycoses et on soignait ça avec des éventails pour écarter les orteils, en fait,
pour
et permettre de cicatriser.
D'accord.
Donc, on était impossible de travailler, on était immobile. Donc, on se reposait.
Et donc, ça vient de là, les pieds
ça vient de là, l'expression.
D'accord, bah alors là.
Ça vient d'une mycose.
Je savais pas. Comme quoi, c'est tout à fait pareil.
Ouais. Excellent. Moi, je dis que c'est excellent.
Au 19e siècle, le Japon exporte vers l'Europe les éventails, mais la grande distribution diminue la qualité de fabrication. Et au 20e siècle, l'éventail disparaît en Occident, mais il reste un objet, on va dire, traditionnel en Asie. On va dire que dans un regain écologique, on pourrait ressortir les éventails contre les climatiseurs, les ventilateurs et dire haut et fort, il n'y a que mon éventail qui maille.
Oh,
toute ressemblance avec des publicités existantes serait purement fortuite.
Voilà. Et Mathias veut un esclave avec, hein, oui, parce que tout seul, oui, c'est compliqué. Ouais.
Non, mais avec Roland Garros, on en voit beaucoup, les petits éventails.
Ah, ils en ont.
Ah oui, ça commence.
Ça, ouais, commence, ça plutôt sort, que, ouais, les petits ventilateurs à piles, en,
ouais,
fait.
C'est bien.
Ah oui, c'est vrai. Mm-hmm.
Merci, Sandra. Allez, on arrive à la fin de l'émission. Il est temps de découvrir qui a gagné le CMA Plus de l'émission précédente. Alors, si vous entendez un bruit immonde, c'est qu'ils tapent tous sur la table.
La lourde.
On est impatients de savoir.
Ils sont impatients de savoir. Donc, les auditeurs ont voté pour la rubrique qui les a le plus intéressés lors de la dernière émission.
Michel.
Alors, il y a 15 jours,
ah non, elle est pas chroniqueuse,
on a eu en sujet les bouteilles. C'était qui, ça, les bouteilles?
C'est Florian.
Florian. Ah oui, des Florian, les bouteilles.
Florian, moi.
Ah bon, les Pride, ça, c'était Mathias. Oui. La suite, les suites de films,
oui,
c'était toi. Et on a eu un So-So Show, et puis on a eu les chansons à boire aussi. Voilà, parce que tu n'étais pas là, Covid.
Oui.
Tu étais Covidé.
Bah oui.
Alors, rappelons que pour cette saison, Caro est première avec 3 CMA+. Oh. Suivi de Mathias, Sandra, Florian, Sonia et moi-même, avec 2 CMA+.
Ah, quand même.
Ouais. Et les autres en ont tous un. Alors, pas tous les autres, puisqu'il y en a un qui en aura un de plus ce soir, et donc il va passer à 2. Puisque
donc
ce
c'est
sont...
pas nous, quoi, en fait.
Ah oui, c'est pas vous cette fois-ci.
Ah ouais.
Ce sont les suites de films, en fait, qui leur ont parlé. C'est vrai que c'était des films qu'on aimait bien. Bah oui, c'était les Retours vers le futur et machin. T'en as 2, bah ça va t'en faire 3. Peut-être que j'ai pas tout regardé, alors effectivement. Ah, t'en as peut-être 3 alors, du coup.
En tout cas,
ça a inspiré nos éditeurs. Oh, vous avez été ex-écho avec Caro, dis donc.
Dur.
Bon, en tout cas, bravo, tu auras ta chronique sur la rubrique CM.
Belle maman.
Non, je ne dirais pas qui vote. Voilà. Il y a quelques jours, on a eu lieu Radiovision avec Sonia. Ça s'est bien passé, Sonia ? Radiovision.
Super soirée, effectivement. On a entendu des belles voix, des musiques très sympas et il y avait une très belle ambiance.
Donc, en fait, ce grand show musical virtuel, eh bien, on peut le retrouver sur radiovision.fr. Et puis, vous allez pouvoir donc découvrir le vainqueur de cette année. On ne vous dit rien. On ne vous spoile pas, comme
Surprise.
Ça, vous allez pouvoir le découvrir. Donc, c'est une finale grandiose, hein, vous verrez. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Merci aux chroniqueurs et queuses du soir. Merci, Olivier.
Merci, bisous.
Merci, Florian.
Merci, bonne soirée.
Merci, Caroline.
Merci.
Merci, Mathias.
Merci.
Merci Sandra.
Merci.
Et merci Sonia.
Bonne soirée.
Merci Bruno.
On se retrouve à la même heure, au même endroit dans 15 jours pour un nouveau numéro de CMA. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.